of you cry. Auditrices et auditeurs de Canal Sud, bienvenue sur Santé Commune, Agir Ensemble, une émission dont le credo est bien informé, bien protégé. Une émission où j'essaie de partager mes connaissances du système de santé ô combien complexe et où je vous fais découvrir des professionnels engagés et des actions innovantes. C'est tout cela Santé Commune, bienvenue dans mon univers. Dans l'émission précédente, où je fais un entretien avec Henri Pouchès, pédopsychiatre aujourd'hui à la retraite, nous avons évoqué l'histoire de la psychiatrie et évidemment l'expérience d'Henri Pouchès au sein de l'hôpital public. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous allons poursuivre notre entretien et notamment son expérience dans le champ de la toxicomanie. Depuis que je te connais, j'ai toujours eu le sentiment très fort que toi, tu as toujours milité pour que la psychiatrie soit ouverte sur la société. Et je pense particulièrement, tu sais, quand tu t'es impliqué dans le champ de la toxicomanie. Alors aujourd'hui, on ne parle plus de toxicomanie, on dit addiction. Et c'est vrai que je trouve que c'est une évolution, en fait, je pense, intéressante d'évoquer, parce que là, on est passé avec cette notion de dangerosité à la notion de réduction des risques, en disant il faut quand même prendre en charge les personnes qui souffrent de toxicomanie, d'addiction. Et du coup, tu as participé, je pense, par ton action, à imposer cette question-là de la réduction des risques, qu'aujourd'hui on banalise, hein, qu'on trouve normal, mais qui n'était pas forcément évidente quand toi, tu as commencé.
Je me suis intéressé à la toxicomanie, au toxicomane plutôt qu'à la toxicomanie, à partir de ma pratique de pédopsychiatre avec des adolescents qui étaient à l'époque... tous plus ou moins fumeurs de quoi.
Et je précise que Henri Pouchès est en train de fumer une cigarette, hein. Donc il a bien sa cigarette au coin des lèvres.
Je fume du tabac et je n'ai jamais fumé que du tabac d'ailleurs. Donc qui fumait des herbes qui font rire, comme on dit maintenant, puis qui sont passés à l'héroïne, et c'était aussi le voilà, j'ai toujours considéré la psychiatrie comme faisant partie de la société. Elle ne peut pas être réellement efficace si elle ne s'intéresse pas aux failles de la société et si elle ne les met pas à jour et si elle n'essaie pas de les combler. C'est un vaste travail, mais vous me direz vaste programme, comme disait l'autre. Mais c'était ça. Et donc, la toxicomanie, c'était aussi un symptôme social, un symptôme de la société. Certes, ça a toujours existé, Baudelaire, les mangeurs de hashish, les fumeurs de hashish, les opiomanes, tout ça, ça a toujours existé. Et ça existera, à mon avis, tout le temps. Il n'y a qu'à voir les fumeurs. Donc, on ne peut pas couper un symptôme
d'un contexte
d'un moment social, comme disait Olive Einstein, la drogue, la personnalité, le produit et la société et l'environnement. Et je crois qu'il avait tout à fait raison. S'occuper de toxicomanes, c'était s'occuper de leurs problèmes, de leurs problématiques internes psychiques qui faisaient qu'ils avaient besoin de ça pour supporter la vie et de faire en sorte que cette vie devienne plus supportable aussi pour tout le monde. Bon, après, on fait comme on peut. Hein.
Mais je suis étonnée parce que je ne savais pas du tout que tu t'étais intéressée ou que tu t'étais impliquée autant sur ce champ-là de la toxicomanie, en lien avec la pédopsychiatrie et le contact que tu avais avec les ados et des ravages en fait, que faisaient les drogues.
Que faisaient les drogues. Et puis c'était aussi, ça m'avait aussi intéressé parce que... quand on s'occupe de toxicomanes, on s'occupe de lui ou d'elle, mais on s'occupe aussi de sa famille, les parents, c'est important. On s'occupe aussi de la société, de leur insertion ou de leur réinsertion dans la société. Donc, je crois que c'était global. Moi, je vais y revenir, mais On ne peut pas envisager un soin, quel qu'il soit, si on le sort de son contexte social, politique, etc. C'est pas possible. En effet, l'humanité est faite comme ça. Enfin, la société est faite comme ça. Si on sort quelqu'un de la société, on le coupe de tout un tas de choses et on l'ampute. C'est même pas, on ne le coupe pas, on l'ampute de ce qui le fait, de ce qui le fait vivre.
Oui, et puis je pense que c'est une manière aussi de mieux comprendre aussi donc qu'est-ce qui peut provoquer aussi ça, quoi, que c'est pas forcément une fatalité et qu'il y a vraiment des dimensions sociales et psychologiques, etc., qui interviennent.
Exactement. Et c'est ça qui est intéressant parce que pour moi, et se limiter à la causalité psychique des choses, c'est là aussi manquer un certain nombre de choses. On n'est pas des animaux de laboratoire qu'on peut sélectionner, qu'on peut faire vivre dans un environnement X, Y, bien défini, stérilisé, stérile. Non, on est fait de toutes ces interactions-là. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Parce que si on n'était que... C'est pour ça peut-être que j'ai fait de la psychiatrie, parce que un problème cardiologique, certes, il y a un problème social, il y a l'environnement, mais ça reste quand même un problème d'organe. On répare l'organe.
Ouais. Alors que le psychiatre, lui, a une vision un peu plus...
Moi, j'avais une vision un peu plus large des choses. Ouais. Je regrette un peu actuellement que cette vision soit de moins en moins envisagée, mais bon. Je ne vais pas faire le vieux...
Le vieux psychiatre.
Le vieux, oui.
D'autant que tu ne l'es plus.
Non.
J'aimerais bien qu'on aborde un peu les représentations de la folie et des troubles psychiatriques. Et on a toujours... Ben, c'est ce que tu disais un peu quand je te disais quand est-ce qu'on a commencé à ne plus avoir peur des malades. Et c'est vrai qu'en réalité, on voit bien que les gens ont peur. Et moi, j'ai l'impression que c'est plutôt les personnes qui souffrent, qui ont plutôt tendance à se replier sur elles-mêmes, à s'isoler et puis à se faire du mal, au point de mettre fin à leur jour. Mmh. Et pourquoi on a toujours cette notion de dangerosité qui est associée aux troubles psychiatriques ? Pourquoi c'est si tenace encore aujourd'hui ?
Parce que ça fait partie des... tout ce qui est étrange fait peur. Je pense que ça, c'est une donnée de l'humain, de l'humanité. Il a peur de ce qu'il ne connaît pas, de ce qui lui paraît étrange. Il faut aussi dire qu'il y a dans certaines maladies, il y a certains malades qui peuvent effectivement être dangereux parce qu'ils sont pris dans leur maladie et ils peuvent commettre des actes dangereux. Un grand paranoïaque qui a un persécuteur désigné, qui désigne un persécuteur, je crains pour le persécuteur. Et bon, ça reste quand même, il faut ne pas oublier, tu as raison de le dire, il ne faut pas oublier que ce sont quand même des personnes qui sont en souffrance. Et que leur souffrance, au fond, leur délire, c'est un processus un peu étonnant, pour le dire comme ça, de guérison. Le délire, quelqu'un qui délire, c'est un processus, c'est une possibilité de guérison pour lui. Sauf que c'est une guérison un peu bancale et quelquefois un peu dangereuse pour les autres. Ceci dit, les malades mentaux dangereux, il y en a très peu. Honnêtement, il y en a très peu et je n'en ai que très rarement rencontré des malades où je me suis dit celui-là il faut faire attention parce qu'il peut être dangereux et donc trouver les moyens de faire baisser cette dangerosité. Après, on est tous, on peut être tous dangereux. Tout dépend des circonstances. Je crois que je suis fondamentalement persuadé que l'homme n'est pas fondamentalement bon, comme disait Rousseau. Ah, je ne suis pas rousseauiste du tout. Et ce n'est pas la société qui le pervertit. Certes, la société le pervertit, mais il y a quand même un fond de sauvagerie qui existe chez tous humains, parce que nous sommes issus De l'animal. Ben oui, tu as raison de le dire comme ça, mais c'est de l'animal. On a tous un fond animal en nous. On a même un cerveau animal, l'archicortex, comme diraient les vieux psychiatres, qui est dominé par les pulsions. Et les pulsions, ce n'est pas forcément des pulsions amicales.
Oui, des impulsions comme aimer voir les gens souffrir,
oui, voilà.
Un côté un peu voyeuriste aussi du malheur. Et...
Le voyeurisme de la souffrance de l'autre, il existe toujours, et il existera toujours, à mon avis. C'est un travail que de s'en débarrasser de ça, hein, mais c'est un travail que fait l'éducation, au fond, hein, parce que l'éducation, c'est ça, c'est apprendre à domestiquer l'animal qui peut être en nous,
oui.
Et faire en sorte que quand on se rencontre, même si on ne s'aime pas, on ne se tue pas.
Bon. Parfois, on en a bien envie, pourtant.
Mais justement, on a peur d'en avoir envie, et tout le monde a peur. Si celui-là, je ne peux pas le voir, je ne peux pas le sentir, ce qui est encore un autre aspect des choses, mais ça veut dire, s'il meurt, et puis même si je peux l'aider, ça... Mais c'est humain, mais ce qui est humain aussi, c'est de lutter contre ces pulsions-là. Après, d'autres, il y a certains qui passent à l'acte. Et puis, je pense que chacun d'entre nous peut être... nous sommes tous des assassins, a dit un film, et c'est vrai.
Oui, en puissance.
En puissance.
Potentiellement.
Oui. On pourrait, mais bon... Heureusement qu'on ne le fait pas. Sinon, ça serait pas. Bon.
J'aimerais te soumettre une petite citation d'un psychologue qui a écrit « Mais quel risque fait-on courir aux jeunes étudiants et aussi à ses futures patients que de laisser diplômer un médecin qui n'a jamais pu acquérir cette capacité à réparer dans son propre psychisme la souffrance de l'autre pour la lui restituer de manière acceptable ? Est-ce que tu penses qu'il faut avoir été capable de se réparer pour prétendre à réparer autrui ?
Ça, c'est une bonne question.
Merci.
C'est une bonne question, c'est-à-dire que je crois qu'il faut être effectivement relativement à l'aise avec ses propres difficultés pour pouvoir s'occuper de celles des autres. Et aussi, surtout, avoir la capacité à mettre de la distance entre soi et les autres. D'ailleurs, je te ressemble, mais je ne suis pas comme toi.
Heureusement.
Ah oui, parce que sinon je choisis à qui je veux. Oui. Sinon je vais choisir.
Ouais.
Non, mais au-delà de la plaisanterie, c'est effectivement, je crois que pour être psychiatre ou pour être un bon thérapeute, quel qu'il soit d'ailleurs, ou un bon enseignant aussi, c'est être capable de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre, enfin de comprendre, d'essayer de comprendre ou d'approcher ce qui se passe dans la tête des autres, à la fois parce qu'ils sont malades ou parce qu'ils sont en phase d'apprentissage, et d'y mettre une distance qui permet d'orienter et d'aider les gens à se débrouiller avec leurs difficultés. Après, faut-il... Ça ouvre la question de la réparation... Moi, cette histoire de réparer, ça me gêne un peu.
Je sais que tu n'aimes pas ce terme, mais j'ai fait exprès de l'utiliser.
Non, je t'en remercie. Non, c'est pas réparer, c'est faire en sorte que ça aille mieux. C'est pas réparer. J'avais fait un texte à l'époque qui avait eu un peu, à l'époque, une petite publicité. C'était j'avais appelé ça le bricolage. C'est effectivement ça, ce que j'ai toujours fait, c'est se servir de ce qui tient pour que ça aille mieux. Donc c'est bricoler, c'est mettre un bout de bois à la table qui est bancale, c'est des choses comme ça qui sont efficaces.
Réparer, en fait, tu aurais l'impression que c'est comme si tu transformais complètement quelqu'un, que tu lui donnais... Enfin, que tu le rendais différent, alors qu'en fait, il suffit juste de l'aider à vivre avec ça.
Je ne pense pas qu'on puisse modifier la personnalité de quelqu'un. On peut l'amender, On peut faire en sorte qu'elle soit moins agressive, moins ou moins dépendante des autres aussi, mais la modifier et faire advenir un homme nouveau, j'y crois pas du tout. Ça, alors les gens qui disent, moi, j'en connais, qui me disent ah mais j'ai fait une psychanalyse et depuis je suis différent. Non, tu n'es pas différent. Tu as élagué ou fait disparaître des choses qui n'allaient pas ou qui ne t'allaient pas à toi. Mais après, tu resteras toujours un tel et avec ton histoire, avec tu as réglé ton histoire ou pas, mais c'est ça. Je crois que c'est plus comme ça que je vois les choses, parce que réparer, refaire à neuf, non. Ça...
Ouais, on n'est pas des pièces détachées.
Non,
enfin,
non. Je me souviens une mère de famille qui me demandait de lui rendre son fils nickel chrome. Et je lui ai répondu que je n'avais pas d'usine de chromage à ma disposition. Bon, enfin, c'est pour l'anecdote, oui. mais c'est un peu ça. Ce qu'elle disait, cette brave femme, c'est qu'elle voulait que je lui rende son fils différent. Ce que je peux comprendre, vu le fils qu'elle avait. Mais bon, j'ai pas réussi. Hein.
Ouais. Et tu sais, quand tu parlais de la distance nécessaire, toi qui as travaillé avec des ados, beaucoup de jeunes, il me semble que ça doit être encore plus complexe, parce que quand on est à l'âge adolescence, on est quand même beaucoup en recherche de soi. Je pense qu'on peut être beaucoup dans la provocation, on peut être dans la séduction, on peut être dans toutes ces choses qui parfois peuvent brouiller peut-être un peu la relation et ça peut être un peu dangereux.
Et oui, et c'est là, c'est important de savoir, de comprendre ce que l'autre fait résonner en soi.
C'est terrible ce que tu dis.
Mais c'est si on le comprend, si on se dit un tel, il me provoque pour que je réponde, et la réponse est de ne pas répondre. Les gamines que j'ai reçues, ados que je recevais, qui étaient dans les difficultés de leur sexualité débutante, qui me trouvaient séduisant, je crois que c'était plus de la position que moi, mais bon, je m'en rendais compte rapidement et puis je mettais la distance qui se faisait et qui s'imposait, parce que pouvait pas être le papa, sûrement pas le petit copain, encore moins, et quant à l'amant, encore moins. C'est un tabou presque, je dirais, parce que là ça c'est dangereux, parce que on renvoie à l'autre une image qui est pas la bonne, qui est celle de quelqu'un qui peut se faire manipuler, entre guillemets, parce que c'est une jolie fille, qu'elle le sait, qu'elle en use, voire qu'elle en abuse. Moi, ça m'a beaucoup fait rire, quelquefois. Mais quelquefois, éclater de rire devant des tentatives de séduction, c'est efficace.
Ça marche.
Ah, ça marche, oui.
Et pour le coup, quand même, ça renvoie à l'idée que ça peut être aussi avoir du pouvoir.
Oui, mais oui. Le danger, c'est aussi de se dire, de faire en sorte que les gens dont on s'occupe fassent ce qu'on aurait envie de faire à leur place. C'est peut-être une phrase un peu alambiquée, mais c'est-à-dire d'agir par procuration, si j'allais dire. On n'est pas là pour ça. On est là pour... Moi, j'aime bien l'idée du miroir. Pas au sens lacanien du terme, mais du miroir, c'est-à-dire qu'on renvoie... Le miroir, il renvoie la réalité. Ouais. Quand on se regarde dans une glace, on se voit comme on est. On est content ou pas content, ça c'est une autre histoire, mais c'est un peu ça. Quelquefois, le travail du psychiatre, c'est d'être le miroir et de renvoyer, et d'expliquer pourquoi ça fait mal. Ce retour, cette image-là, parce que sinon, Sinon, si on se laisse envahir par l'image de l'autre, on devient l'autre et ce n'est pas beau.
Toi qui as été chef de service donc, à l'hôpital, tu as eu quand même des agents sous tes ordres, des psychologues, des psychomotriciens, enfin tout type de professionnels. Du coup, tu as été confronté à ce genre de situation où tu as été obligé de remettre un petit peu le cadre, la posture professionnelle, l'éthique et tout le reste.
Ça, je serais mentir que de dire non, mais ça m'est arrivé en tant que chef de service, donc investi d'un pouvoir hiérarchique, de dire à certains ou certaines soignants ou soignantes, dire non, bon là, ça va pas. Et là, il faut arrêter de coucougner, comme on dit chez moi, certains gamins ou gamines, de les tenter de se laisser emporter dans leur mouvement de séduction, parce que d'abord, c'est pas possible. Même si on a tous été amoureux d'une prof quelconque, mais ça s'est arrêté là. Et, c'était très platonique, comme on dit, et probablement ça a permis à certaines de progresser dans leur connaissance, dans leur éducation. Mais on n'est pas là pour ça. Les soignants, ils sont là pour mettre pour permettre que les choses aillent mieux, que la souffrance disparaisse, ou s'atténue, l'idéal c'est qu'elle disparaisse, mais où elle s'atténue et qu'elle soit vivable, et qu'elle soit vivable pour tout le monde. Après, l'affectivité, bien sûr qu'elle existe, mais il faut là aussi la contrôler. On ne peut pas aimer tout le monde, et on ne peut pas être aimé de tout le monde. Et alors quand on est chef de service, C'est ça le plus compliqué, c'est à la fois de pas être aimé de tout le monde et d'être suffisamment abordable pour pouvoir aider les gens aussi, parce qu'il faut aussi aider les soignants à soigner. Oui. Parce que c'est pas. Tous n'ont pas la capacité, ou n'ont pas acquis la capacité de prendre cette distance dont j'ai déjà parlé, de ne pas se laisser envahir, à la fois par leur projection, ce qu'on appelle le contre-transfert, c'est-à-dire celui-là je ne supporte pas, il m'énerve, il t'énerve, mais
c'est
réel, mais pourquoi il t'énerve? Et puis, si t'énerve, tu fais avec ce qui t'énerve, mais tu t'en occupes quand même. Et tu prends sur toi. C'est difficile, c'est compliqué, ça suppose du temps aussi, et ça, bon, c'est souvent ce dont on manque le plus, le temps, dans les hôpitaux.
Ouais. On en a encore aujourd'hui la preuve.
Et alors aujourd'hui, encore plus.
Moi, j'ai une petite question. Bon, c'est une question un peu que ça me fait plaisir de te la poser. C'est quand on est psychiatre, dans son quotidien, je ne sais pas, tu rencontres quelqu'un, est-ce que tu es psychiatre tout le temps? Est-ce que quand tu rencontres quelqu'un, tu vois tout de suite ce qui déraille ou ce qui peut poser problème? Parce que parfois, tu peux mettre des mots qui, pour toi, en notre sens, qu'on peut en avoir. C'est quelque temps, puisque je suis chez vous, là, un peu en vacances. On a parlé des gens qui étaient obsessionnels. Et les gens, quand ils disent obsessionnels, ils confondent avec perfectionniste, alors que ça n'a rien à voir. Et que c'est vraiment problématique. Comment c'est au quotidien ?
Au quotidien, je ne suis pas psychiatre. Au quotidien, je suis Henri Pouchès, et avec ses
défauts.
Ses défauts. Énorme, certes, tout le monde te dira que je me mets facilement en colère, je suis comme ça, à l'hôpital, je me mettais rarement en colère. Alors, quand je me mettais en colère, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas, y compris avec les soignants ou avec les soignés d'ailleurs. Je me souviens avoir engueulé certains de mes patients et après l'avoir un peu regretté, mais bon.
Ouais, c'est passé.
Oui, voilà. Et ils ont fait avec aussi. Parce qu'on ne peut pas être totalement neutre tout le temps. Non, ça m'arrive quelquefois de dire, tiens, et celui-là, bon, mais sans plus, je pense que je suis, pour en avoir discuté avec d'autres médecins, je suis comme le dermato qui repérait le carcinome débutant chez un de ses amis, mais parce que ça lui a sauté aux yeux. Il n'était pas dermato, il commençait pas, à chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, à regarder comment était sa peau, s'il était en bon état, pas en mauvais état. Non, être psychiatre à 24 heures sur 24, ce serait épuisant. Ouais. Ça rendrait fou.
Ouais, est-ce que tu n'es pas ?
J'espère.
Là, tout à l'heure, en discutant, là, on discutait, bon, vous avez pas mal voyagé avec Yolande, hein, ta compagne, mon amie, et on évoquait votre passage au Tibet, où tu avais rencontré
au Népal,
où tu avais rencontré quelqu'un qui t'avait laissé entendre qu'en fait la psychiatrie c'était un luxe dans nos sociétés. J'aimerais bien que tu développes. Alors,
cette dame, vieille dame, mais vieux au Népal, c'est difficile à dire. Je sais pas quel âge elle avait, mais elle paraissait vieille, mais vieille parce qu'elle était peut-être usée aussi par une vie pas facile, parce que quand elle m'a raconté là, on était à 4000 mètres, donc c'est pas une altitude courante par chez nous, chez eux si, mais pour chez nous non. Donc elle m'a dit qu'effectivement je devais être dans un pays riche pour m'occuper des fous. Et cette question m'a beaucoup fait, enfin cette affirmation m'a beaucoup fait réfléchir sur le moment, et puis après, et puis elle continue à me faire réfléchir, parce qu'effectivement, s'occuper des malades, c'est-à-dire des improductifs, parce que c'était le problème pour eux, après analyse avec les Népalais du coin, j'ai compris que c'était pour eux, la maladie mentale, c'était la source d'improductivité. Quelqu'un qui ne sert à rien dans un village népalais, mais c'est une charge pour les autres, et comme déjà le gâteau est pas énorme, le donner à quelqu'un qui n'y participe pas, ça ils ne pouvaient pas le comprendre. Donc pour eux, s'occuper des gens qui sont improductifs, c'est ce qu'elles pensaient sûrement, c'était il fallait avoir une société suffisamment riche pour pouvoir le faire. Ce qui, d'une certaine manière, est assez vrai. Je crois qu'on peut... Il y a tellement de façons de juger d'une société, mais je pense qu'une des façons, un des aspects qui permet d'appréhender un fonctionnement social, c'est la façon dont ils s'occupent de leurs malades. Mentaux, certes, j'irai un peu plus loin de leurs malades physiques, et encore actuellement, je dirais des vieux, des personnes âgées.
Et même des personnes qui sont en prison, qui sont a priori inutiles.
Oui, voilà, qui sont, oui, a priori inutiles. Bon, j'ai travaillé aussi à la maison d'arrêt de Tarbes, en prison. C'est un autre univers. C'est un autre univers, d'autres règles, d'autres façons de voir les choses, d'autres réflexions aussi, des réflexions éthiques. Est-ce qu'on peut enfermer quelqu'un tout le temps? Ben bon. Après, se pose la question, j'ai rencontré en prison des gens dont j'étais bien content qu'ils soient en prison. Je le dis comme ça, et que si ça avait été relâché dans la rue, j'aurais fait attention. En les croisant, j'aurais fait attention. Bon, ça c'est l'anecdote, mais cette réflexion de cette vieille népalaise là m'a beaucoup touché, m'a beaucoup fait réfléchir. Effectivement, il faut être riche pour pouvoir s'occuper des malades mentaux. Enfin, il faut être dans une société riche pour s'occuper des malades mentaux, parce qu'ils ne sont pas productifs, ils coûtent cher, il faut les entretenir et ils coûtent cher. Bon, est-ce que pour autant il faut les supprimer? Je n'irai pas jusque-là.
Oui, j'ai bien compris.
Je ne suis jamais allé jusque-là. Mais bon. Et d'ailleurs, on en parlait, et quand même, il ne faut pas oublier que les camps de concentration, avant les camps de concentration, les premiers qui ont été visés et qui ont disparu, c'est les malades mentaux.
Oui, c'est un reflet de la société, de la manière dont on les prend en compte.
Eh bien, la société, elle se juge à la façon dont elle s'occupe de ceux qui sont dans la marge, dans les marges de la société. C'est tout. Enfin, les hôpitaux psychiatriques, au départ, je vais revenir à Rosès, qui était parce que c'est l'ancien hôpital, c'est l'asile, comme disaient les vieux encore quelquefois ici, c'était le dépôt de mendicité, qui était l'ancien archevêché de Saint-Lizier, les locaux de l'ancien archevêché de Saint-Lizier. Et ce dépôt de mendicité, je me souviens d'avoir entendu des vieux, très vieux, de l'époque, le dépôt de mendicité, c'était l'endroit où on mettait les mendiants, parce qu'ils gênaient, il y en avait trop, donc on en mettait quelques-uns à l'abri, et les filles perdues. Alors, filles perdues... pas pour tout le monde, certes, mais ouais. Bon, vous voyez ce que je...
Mais au banc de la société.
Tu vois ce que je veux dire, et au banc de la société, du moins celles qui n'étaient pas dans les maisons, comme on disait. Et ces dépôts de mendicité, c'est devenu des hôpitaux psychiatriques, et c'était des formes de prison aussi, parce que le mendiant qui embêtait les gens dans la rue, ben, on le mettait en prison. Alors, bon, après...
Oui, c'est une mise à l'écart, en fait.
Oui, bon, est-ce qu'une société peut tout accepter et ne génère pas des lieux de mise à l'écart? C'est une question que je me pose. Je n'ai pas résolu, d'ailleurs. Je pense que, enfin, pour une part, il y a des moments où il faut écarter de la société des individus qui pourraient être très nuisibles.
Mais après, c'est la manière dont on les écarte et on continue à les soigner.
Ça tout dépend ensuite de ce qu'on en fait. Parce que si c'est écarter les gens pour les mettre dans des camps de concentration ou dans des prisons... après, les prisons, ça renvoie à la notion de faute et de délit. Et bon, là, c'est notre débat. Mais bon, certains, il faut les mettre au banc de la société, mais à côté, et s'en occuper correctement et avec tout, avec ceux à quoi ils ont droit en tant qu'être humain, ne serait-ce que le respect, déjà.
La dignité humaine.
La dignité humaine, oui. Mais...
Aujourd'hui, nous avons évoqué avec Henri Pouchès, pédopsychiatre à la retraite, le champ de la psychiatrie, de ses évolutions, de son histoire aussi. Une émission préparée et animée par Senia Fella et à la réalisation, Germain. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle émission de Santé commune.